Une fois par mois, dans l'Union, un récit dans lequel on donne la parole à un Européen ou une Européenne afin qu'il ou elle nous livre un témoignage, une anecdote, qui met en avant ce que peut incarner l'Europe pour lui ou elle dans ce qu'elle peut avoir de bon comme de négatif. Y a-t-il une mémoire collective européenne ? Quels sont les souvenirs liés à l'Union Européenne et quelle expérience les 15-35 ans font-ils de l'Europe en 2022 ? Ayant grandi en France, j'ai appris dans un premier temps dans ma famille, puis à l'école, l'importance de l'Union Européenne, gigantesque projet de paix réparateur des blessures de la Seconde Guerre mondiale et à l'origine de réformes libérales et sociales. Habitant aujourd'hui à Bruxelles, je me suis, pendant plus de 20 ans, défini comme un Européen convaincu, pur et dur, qui au grand jamais ne pourrait remettre en cause les bienfaits de la Sainte Union. Mais au fil de rencontres avec les gens de ma génération, lors de voyages, de promenades, de pendaisons de crémaillère ou de verres au comptoir de bar, une question revenait sans cesse. À quoi sert réellement l'Europe ? Comment peut-elle aussi mal communiquer de telle manière que ces 447 millions de ressortissants et ressortissantes puissent à ce point ne rien savoir ni comprendre de ses agissements ? Je me suis donc dit que raconter son expérience faite de l'Europe, c'était mettre en avant ce qui fonctionnait, mais aussi pointer du doigt les absurdités d'un territoire que nous partageons tous et toutes. C'est raconter toutes les situations, plus ou moins banales, de la vie quotidienne, dans laquelle nous, génération Y et Z, interagissons avec l'Union Européenne. Chaque mois, la parole est à trois jeunes, afin qu'ils et elles nous témoignent de leur expérience faite de l'Europe, en paroles et en chansons, en nous racontant une anecdote de leur choix.
Salut, je m'appelle Ninon. J'ai 26 ans et maintenant je vis à Bruxelles. Il y a 3 ans, je vivais en Allemagne où j'ai fait un an d'Erasmus et un an où j'ai pas foutu grand-chose, mais j'avais juste envie de rester là-bas. Donc j'étais à Leipzig, pas loin de Berlin, en Saxe. C'était assez central et j'ai pu voyager un peu partout. Et puis bon, j'étais étudiante, du coup j'avais pas énormément de sous. Donc le moyen le plus efficace et économique de voyager, c'était le car. Donc je prenais la compagnie Flixbus assez régulièrement. Et un jour, on a décidé avec une amie de se rendre à Amsterdam. Elle partait de Paris et moi je partais de Leipzig, on avait prévu de se retrouver là-bas. Donc on faisait chacune le chemin de notre côté. Depuis Leipzig jusqu'à Amsterdam, ça faisait environ 9 heures de car. Les 6 premières heures se passent sans souci. Et puis, à un moment, le chauffeur décide donc de faire une pause pipi. Sur ce genre d'aire d'autoroute où il n'y a pas de café, il n'y a pas de restaurant. C'est juste des toilettes au milieu de nulle part, au milieu d'un parking. Soit. Je descends, je me dégourdis les jambes, je fume une cigarette. Et là, je me dis, je vais quand même en profiter pour aller au cabinet. Le temps de faire pipi, je ressors et là, je vois donc mon Flixbus se mettre en route et du coup emprunter l'entrée de l'autoroute, sans moi donc. Je me dis, j'ai un petit moment de latence comme ça, où je me dis, est-ce que ça arrive vraiment ce genre de choses ? Peut-être qu'il fait demi-tour, peut-être qu'il y a un souci, etc. Donc... J'évite de trop paniquer, toutes mes affaires sont dans le car, et je m'assois au bord de l'autoroute, il faisait assez beau, c'était plutôt agréable au début. Et je me dis, ok, il va forcément faire demi-tour. À l'intérieur, j'étais assise à côté d'un garçon que je ne connaissais pas, mais avec qui j'avais fait connaissance. Je me suis donc dit qu'il allait forcément signaler mon absence au chauffeur. J'attends 10, 15, 20 minutes environ. Et là, je me dis, ok, il y a un problème. On ne viendra pas me chercher. Sur moi, je n'avais que ma veste, une grosse veste en cuir déchirée, mon téléphone avec 6% de batterie et mon portefeuille avec quelques pièces de monnaie pour me débrouiller, donc. Et là, je me mets en mode survie. Vraiment, j'avais jamais eu affaire à ce genre de situation. La panique commence à monter. Bah voilà, avec mes 6% de batterie, je me suis dit, ok, d'abord j'appelle Flixbus. J'essaye d'obtenir le numéro du chauffeur pour lui dire de faire demi-tour, de venir me chercher, ce que Flixbus a catégoriquement refusé. Avant de me dire, voilà, la seule solution qu'on peut vous proposer, c'est de remplir ce fameux formulaire de plainte qui, sur le moment, ne m'aurait servi à rien, strictement. Absurde, vraiment absurde. Je me suis dit, bah, écoutez, mais à payez-moi un taxi, en fait. Vous le faites venir de la ville la plus proche, etc. Vous vous démerdez, mais vous m'aidez. Je veux dire, j'ai payé, voilà, pour qu'on m'emmène d'un point A à un point B. C'est pas pour qu'on m'abandonne au milieu du chemin. Il doit bien y avoir une solution. Et je décide donc de faire du stop. C'était ma seule solution. Il était 18h. Le soleil allait pas tarder à se coucher. J'étais quand même donc une femme seule sur le bord de l'autoroute. Je commence à paniquer, à demander autour de moi. On était à ce moment-là dans le nord de l'Allemagne, à encore 2-3 heures de route de la frontière avec les Pays-Bas. Donc les gens n'allaient pas forcément dans cette direction. Toutes les voitures qui venaient se garer, je toquais à leurs fenêtres. Tu vois l'apparition, la nana avec des mèches qui partent dans tous les sens, la veste déchirée qui sentait probablement un peu la clope, qui en plus voulait aller à Amsterdam pour y faire quoi. Là, je pense que leur imagination partait dans tous les sens et surtout qu'ils n'avaient rien sur elle. Enfin, je pense qu'ils devaient se demander comment déjà j'étais arrivée jusque-là. Dans leur tête, ils devaient se dire « Ok, elle est tellement horrible qu'on l'a abandonnée !» Vraiment, je me suis pris... Surtout des hommes qui me regardaient du coup un peu bizarrement, qui me proposaient des trucs un peu bizarres. Ce genre de choses, enfin, j'ai quand même eu un peu peur, on va pas se mentir. On m'a proposé d'utiliser leur téléphone éventuellement, mais j'étais là « Qui appeler ?» Dans cette région, dans le nord de l'Allemagne, je connais personne. J'ai des contacts à Leipzig, mais on est déjà à 6 heures de route. J'ai de la famille à Paris, mais pareil, c'est pas la porte à côté. J'ai appelé ma mère quand même. C'était une très mauvaise idée, hein, parce que qu'est-ce qu'elle pouvait faire finalement ? Rien. Donc à part la faire paniquer, c'est tout ce que j'ai obtenu. Mais la plupart, ils avaient même pas envie que je leur explique ma situation, en fait. Je leur disais « Fahren Sie nach Amsterdam ». Et ils étaient là en mode « Ouh là là, non, 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 c'est pas du tout notre destination. » Franchement, j'étais effrayante. Et donc, je passe peut-être une heure et demie à essayer de trouver donc une voiture qui voudrait bien m'emmener à Amsterdam. Rien à faire. Et finalement, par miracle, je tombe sur un couple très sympathique, une jeune néerlandaise et un allemand, qui acceptent de me conduire jusqu'à Heerenveen, dans le nord des Pays-Bas. Et seule solution à ce stade. Donc nous voilà partis pour 2-3 heures de voiture, suivie d'une bonne heure et demie de train, pour arriver finalement vers 1h du matin à Amsterdam. Donc sans affaire, je retrouve mon amie. Donc voilà, déjà je suis contente d'être vivante, je suis contente d'être en un seul morceau. Mais je n'ai pas mes affaires, je n'ai rien sur moi. Je décide le lendemain matin, aux aurores, de me rendre à la gare routière à nouveau pour voir si éventuellement je ne retombe pas sur le chauffeur en question. Ce qui fut le cas, je tombe sur un seul Flixbus avec un type à l'intérieur qui, quand il m'aperçoit, écarquille grand les yeux et me dit « Mais mademoiselle, le toupet quand même. J'ai eu le temps de boire 8 cafés pendant votre pause pipi. » Et là, j'explose en larmes d'abord, mais des larmes de colère, quoi. On finit par s'engueuler. Il avait quand même eu, heureusement, le réflexe de garder mes affaires dans la soute, de tout rassembler. Mais c'était le seul geste qu'il a eu envers moi, quoi. Terrible. Donc voilà, après cette aventure-là, alors j'ai quand même réussi à profiter de mes vacances à Amsterdam. Mais évidemment, j'ai contacté Flixbus pour leur expliquer la situation, ce qui m'était arrivé. Et en contrepartie, j'ai donc eu droit à un bon de 3 euros sur mon prochain voyage, valable uniquement sur Internet et pas sur l'application. C'est le genre de conditions qui m'ont fait un peu rire. Alors j'en rigole maintenant, mais sur le coup, je rigolais pas du tout. Et finalement, après avoir discuté avec d'autres chauffeurs de Flixbus, je me suis rendu compte que leurs conditions de travail, finalement, étaient si précaires que ce genre de situation n'était pas rare. En cas de retard, ils sont pas rémunérés, enfin, ils sont soumis à une pression qui est quand même effarante. Donc c'est pas spécialement le chauffeur que j'ai envie de blâmer après tout ça. C'est vraiment ce genre d'entreprise. J'avais 21 ou 22 ans. Dans ma tête, c'était finalement une épreuve qui, selon moi, m'a permis vraiment de passer de l'enfance à l'âge adulte. Avec le recul, j'étais assez fière de m'en être aussi bien sortie et d'avoir su garder mon calme à un moment où j'avais besoin de le conserver. Donc oui, c'était un moment un peu charnière, c'était à la fin de mon Erasmus et après ça, je me sentais capable de tout. J'ai justement, et en fait maintenant un peu le running gag, c'est que tout le monde dit que je suis maudite avec les bus. Maintenant mes potes ne veulent même plus prendre un bus avec moi, tu vois. Récemment aussi, justement en faisant Bruxelles-Paris, qui est finalement un trajet sans embûche et relativement court, 4 heures normalement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mis 12 heures, car du coup mon Flixbus a failli perdre une roue. Je me disais aussi que ça tanguait un petit peu, que c'était pas normal. Le chauffeur s'arrêtait régulièrement sur le bord de la route, tu vois, puis il attendait, je sais pas, 5 minutes avant de redémarrer, et au bout d'un moment, il s'arrête et il nous dit « Non, mais en fait, je suis désolée, hein, mais on est en train de perdre une roue, donc c'est pas possible, il va falloir qu'on s'arrête, il va falloir qu'on attende, il va falloir qu'on fasse réparer cette roue. »
Il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même. La plage est typique, mon romantique. Je l'oublierai jamais. C'est un moment parfait. Tam 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 tam. Ni souvenir, ni avenir. Un oiseau passe, chante mon Parnasse, poule un capolinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage, c'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais.
En fait, je m'appelle Kira. Je viens d'Allemagne et je suis à Bruxelles depuis septembre. Je suis venue ici pour faire une Erasmus. Et après, je voulais bien rester un peu plus parce que j'aime bien la ville. J'ai une amie de Ghent. Je le connais de mon premier Erasmus pendant mon bachelor. Et elle vient de Ghent et elle s'appelle Sybille. Et ensemble, nous voulions faire une excursion à Namur et Nantes. Et c'était aussi avec ma sœur qui est venue me rendre visite cette week-end. Et en fait, il y a quelques temps, Sybille est allée dans la région de Namur avec son amie. Et ils ont loué une Airbnb chez un homme belge. Et avec le temps, ils ont devenu amis avec lui. Si bien qu'ils ont pu y séjourner à plusieurs reprises sans rien payer. Et selon elle, l'homme très âgé était une personne adorable, même s'il était parfois un peu bizarre. Nous avons donc eu l'idée de lui demander, il s'appelait Julien, si nous pouvions y loger pour une nuit. Et ma sœur et moi, nous sommes partis un peu plus tôt à Namur parce que Sybille devait travailler le vendredi. Et en fait, elle nous a cherché là-bas avec la voiture de Julien, à l'appartement de Julien, qui était situé en environ 15 minutes de Namur. Comme nous sommes arrivés, il n'y avait personne, Julien n'était pas là, mais la radio diffusait de la musique classique. Et c'était un peu comme dans un film. C'était un peu spooky. Nous nous sommes installés dans nos chambres et nous avons pris quelques bières dans le frigo. Et j'ai vu que l'intérieur, c'était un peu bizarre. Il y avait des pots traînés partout au-dessous des canapés et aussi sur le sol. Et il y avait aussi des tonnes de plantes. Le lendemain prochain, Julien nous a préparé le petit déjeuner. Et il avait fait lui-même de la compote pruneau, exprès pour nous, car ma soeur et moi, nous avons une alimentation végane. Et comme ma soeur ne parle pas français, et comme Sybille et moi, nous nous connaissons d'Espagne, on parle plusieurs du temps en espagnol. Et elle a fait la traduction parce qu'elle est traductrice. Et oui, le soir, avant de retourner à Bruxelles, Julien voulait nous inviter à dîner. Et quand nous sommes arrivés, il était déjà en train de se préparer quelques trucs. Et il était peut-être déjà un peu ivre. Je pense qu'il avait bu quelques bières avant. Et il avait une bière favori qui était très forte. Par exemple, quand il a mettre la table, c'était un peu comme ça. Et enfin, nous nous sommes également servi quelques bières qui sont, comme chacun sait, très fortes. Et il cherchait des choses véganes pour ma soeur et moi. Mais je pense que pour lui, c'était comme un peu bizarre. L'alimentation végane, il ne connaissait beaucoup. Et il a commencé une discussion sur le véganisme qui a commencé lorsqu'il a dit que les vaches mangeaient même des animaux vivants, des insectes, ensemble avec l'herbe, donc qu'elles n'étaient pas véganes du tout. Et il a en plus... Il a aussi fait le son de vache pour montrer comment les vaches mangent. Il a fait un son très bizarre. Et il a ensuite annoncé qu'il était favorable à ce que l'on mange que la viande que l'on a tuée soi-même et que l'on ne puisse tuer à nouveau que quand la viande a été mangée. Et il a dit qu'il n'y aurait alors plus de guerre. Finalement, il a dit que nous deviendrons tout cannibales. Au dîner, il a pointé sa fourchette vers ma petite sœur, qui ne parle pas français. Et il a dit qu'elle avait probablement la viande la plus jeune et qu'elle serait probablement tuée au premier pour cette raison. Et comme ça, il faut tuer la plus jeune. Oui, c'était trop bizarre, toute la situation. Mais en même temps, il était très aimable. En fait, oui, nous sommes restés comme ça. Et pour le dessert, en plus, il a mis une carte entière de gâteau dans mon assiette. Et c'était bien sûr non vegan. Et j'ai pas protesté, mais je lui ai rentré la moitié parce que j'ai dit en carte, c'est trop, je suis désolée, je ne peux pas manger tout ça. C'est ainsi que nous n'avons finalement pas mangé tout à fait vegan. Et oui, c'était en tout cas la conversation la plus drôle que j'ai jamais eu en français. Nous sommes partis un peu à la hâte pour prendre le dernier train à Bruxelles. Oui, et même si Julien a encore fait quelques allusions avec sa fourchette en direction de ma sœur, il semblait visiblement heureux de nous avoir accueillis.
Vamos como los chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A pulso. Que la notéis en las collejas. Vamos. Ahí veo. Izquierda adelante, derecha atrás. Menos paso quiero. Vamos, chavales, que estamos en la Plaza Nueva. Hay azar por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo.
Je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans, je suis franco-italienne et je vais raconter une histoire qui m'est arrivée lors de mon voyage de 5 mois que j'ai effectué avec des amis en 2018. Donc on était 3, donc moi franco-italienne, mon ami franco-français et ma troisième amie franco-colombienne. Donc en Amérique du Sud, elle voyageait principalement avec son passeport colombien. Et donc en fait on avait beaucoup voyagé, donc commençait à être habitué à passer des frontières et on croisait notamment à cette époque-là beaucoup de Vénézuéliens. Donc c'était la période où Maduro était au pouvoir et donc il y avait un exil de toute la population vénézuélienne qui trouvait refuge au Pérou et puis en Équateur. Voilà, on était à notre cinquième mois de voyage. On va pour aller en Colombie, donc pour passer la frontière. Et on est dans une auberge, donc en Équateur. On était dans un tout petit village, vraiment minuscule, avec quasiment rien, et juste la frontière à côté. Et en fait, la dame de l'auberge nous dit « Il faudrait que vous partiez à 5h du matin pour passer la frontière, parce que, au vu de la situation... » avec les Vénézuéliens actuels, ça risque d'être compliqué pour vous de passer la frontière et il y a moyen que vous y passiez une journée, quoi. Et du coup, elle nous conseille d'y aller à 5h du matin, donc ce qu'on fait,
Et donc on arrive à la frontière et on voit une queue monstrueuse. On voit des bébés par terre, des gens quasi nus dans le froid. Donc on se met dans cette queue et on se dit que bah, ça va être très long pour passer la frontière. Et on commence à parler avec une femme vénézuélienne et sa famille. Et on demande depuis combien de temps ils sont là. Et elle nous dit, bah, on est là depuis 5 jours, on attend pour passer, mais ça prend énormément de temps, etc. On a dû attendre à peu près 1h30 dans la file, des Vénézuéliens. Donc on parle avec eux, on sympathise, et à ce moment-là, deux backpackers viennent nous parler, nous alpaguent en fait parmi les Vénézuéliens, comme s'ils avaient reconnu en nous des Européens backpackers que nous étions. Et ils nous disent en anglais « You know that there is a gringo line over here ». Et du coup, on est un peu gênés et tout ça. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a une file faite pour les Européens, enfin les gringos du coup, mais les Européens. Et en fait, c'était terrible parce qu'on a dû remonter toute la file qui durait sur des... Je sais pas. Et on a dû remonter toute la file devant tous les gens qu'on avait vus et avec qui on avait un petit peu attendu, du coup. À ce moment-là, nous, on passe tout devant et il y a un homme qui s'était fait poignarder dans la file, qui pissait le sang. C'était terrible. Et en fait, qui demandait des soins urgents. Et parce qu'il était vénézuélien et qu'il était question... Bah de passer la frontière et que l'aide médicale se faisait du côté où il devait passer, en fait. Je me souviens qu'il n'a pas été pris en charge. Et on est passé en vraiment 5 minutes du côté colombien. Et en plus de ça, notre amie qui est franco-colombienne est passée avec son passeport colombien. Et même elle, en étant colombienne, en rentrant sur le sol colombien depuis l'Équateur... Elle a mis bien plus de temps que nous à pouvoir rentrer. Donc, ça m'a quand même assez choquée, surtout au vu de la situation des Vénézuéliens à cette époque-là et de ce qui se passait. Et voilà, le fait de savoir qu'on avait un privilège qui nous était donné juste parce que bah, on venait d'Europe...
Le je rêve d'un carré. J'aimais pas les profs, j'aimais pas les cours. Près de la fenêtre, j'étais la cour. En arrière-plan, y'avait les tours. Et à 15 piges, j'avais déjà fait le tour. C'est à Tibiza, Podia, Ourt. On part en camp, se va au quart de tour. La paye toute fraîche d'un job d'été. Avant de récuire des steaks hachés. Négro et sur Côte d'Azur. On dort tous dans la voiture. On rentre en boîte, on paye pas. Grâce aux jolies filles des Pays-Bas. DJ Nas passe de la dance. Elle parle anglais, je lui parle en wesh. On va sur la plage, la lune est blanche. Comme c'est dangereux, toi c'est hanche. 20 minuit loin de la tête. Paradis entre parenthèses. Mes potes sont où, je suis parti seul. Un fait pour moi, j'ai agi seul. Je la raccompagne, son père la cherche. Je pars en courant, son père la steak. Je marche seul au bord de la mer. Et je pleure, je pense à ma mère. Je pourrais jamais la rendre heureuse. Je pourrais jamais la rendre heureuse. Je rêve d'un carré bleu, carré bleu. Un carré bleu, je rêve d'un carré bleu. Je veux me barrer là. Loin de, je m'arrête pas. Je rêve d'un carré bleu, je vais me barrer de là. Loin de, je m'arrête pas. Je rêve d'un carré bleu, je vais me barrer de là. Barrer de là, je vais me barrer de là.
On conclut donc cet épisode de l'Union avec le titre Carré Bleu de This Is, un épisode dans lequel se seront croisés discussions autour du cannibalisme, soirée sur le bord de l'autoroute au nord de l'Allemagne et pouvoir des passeports européens. Nous aurons également écouté Moment Parfait de Philippe Catherine et Crito de la Nabaa du groupe andalou Califado 3-4. Merci à Ninon, Kira et Adèle pour leur participation. À dans un mois!